et bienvenue dans ce podcast dédié à l'investissement immobilier. Je suis Gary Franco, investisseur immobilier et fondateur de EasyInvest, qui est un facilitateur de projets immobiliers sur l'Île-de-France et ses environs. Vous pouvez nous retrouver sur notre site easyinvest.fr, nos pages Facebook, LinkedIn ou Instagram, et nos groupes Facebook dédiés pour l'un à l'investissement et pour l'autre à l'achat d'un logement en région parisienne. J'ai souhaité partager avec vous, avec ce podcast, des conseils d'experts de l'immobilier et de l'investissement en particulier. Des investisseurs, des marchands de biens, chefs de travaux, gestionnaires locatifs, agents ou gérants de fonds d'investissement. J'espère que vous apprécierez et que cela vous donnera envie de vous lancer dans cette super aventure. Vous pourrez commenter, noter, partager ou vous abonner à ce podcast pour ne manquer aucun épisode. Je reçois aujourd'hui Guillaume Malgouir, investisseur chevronné. Il forme un tandem gagnant avec sa compagne depuis déjà plusieurs années. Ils investissent, rénovent, gèrent et forment aujourd'hui des dizaines de clients sur l'investissement immobilier. Je vous invite à découvrir son parcours atypique. Bonne écoute. Salut Guillaume. Bienvenue dans ce podcast, dans ce nouvel épisode de EasyInvest. Est-ce que tu pourrais te présenter un petit peu à nous, nous dire qui tu es, ce que tu fais.
Super. Pas de souci. Donc je m'appelle Guillaume Malgouir. J'ai 32 ans, à l'heure où on tourne actuellement, et je suis investisseur et entrepreneur récidiviste. J'aime bien ce terme d'entrepreneur récidiviste, dans le sens où je suis un fou d'investissement immobilier, mais aussi un fou d'entrepreneuriat. Et de la manière que j'achète des immeubles de rapport, j'aime aussi créer des entreprises et pourquoi pas les racheter. Le contexte est plutôt favorable actuellement. Donc moi je suis investisseur immobilier spécialisé dans les immeubles de rapport. Je fais également de la formation, de l'accompagnement. On est cofondateur d'un cabinet d'expertise comptable. On a également un cabinet de maîtrise d'œuvre, de l'architecture d'intérieur, et on est actuellement en création de plusieurs sociétés dans le domaine de l'investissement, mais pas forcément immo, on va dire l'investissement en général.
D'accord. Ok, très complet. Donc, sur la partie IMO, tu n'es pas juste investisseur, c'est-à-dire que tu construis un petit peu un genre d'écosystème sur différents métiers, aussi bien de l'architecture. Est-ce que, par exemple, je ne sais pas, sur les travaux, est-ce que là-dessus, tu délègues totalement ou est-ce que, par exemple, tu fais travailler aussi des gens que tu connais ou des futurs associés? Comment ça marche?
Alors en fait, donc nous on a créé la société Club Immobilier avec Émilie en 2015, donc il y a maintenant un peu plus de 5 ans, bientôt 6 ans. Et cette société faisait à la base uniquement de l'accompagnement individuel à l'investissement, c'est-à-dire qu'on aidait les investisseurs à trouver leur projet, on allait sur le terrain avec eux les visiter, on les conseillait sur leur projet, on les aidait sur le montage du dossier bancaire, trouver les artisans, suivre les travaux. Moi, je suis conducteur de travaux à la base. Ouais. C'est mon métier premier. Et jusqu'à simplement la réception des travaux. Donc ça, c'était notre activité pendant 2 ans environ, 2-3 ans. Et ensuite, je crois qu'en 2018, on a commencé la formation en ligne sur laquelle on a proposé des tarifs qui sont évidemment réduit, parce que quand tu fais de l'accompagnement individuel, forcément, c'est ton temps que tu vends donc et ton expertise. Mm-hmm. Et en vendant à plusieurs personnes cette expertise, tu peux évidemment diminuer le coût de ce que tu produis. Donc ça a été l'objectif. Donc on a toujours eu en fait dans le cœur de métier, on a toujours eu cette partie maîtrise d'œuvre sur laquelle on faisait les plans pour nos clients.
D'accord.
Sauf que petit à petit, on a professionnalisé les choses, on a pris des architectes en interne qui maintenant le font à la fois pour nos clients, pour nos élèves et pour nous aussi, puisque évidemment on l'utilise pour nos propres projets. Voilà comment on l'utilise.
D'accord, ok. Donc à titre perso, tu as démarré donc j'imagine l'investissement au départ pour toi-même. Mm-hmm. Et à quel moment tu t'es dit j'aimerais aussi en faire profiter des clients, des élèves et faire ça aussi pour les autres?
En fait, nous, on a commencé à investir dans l'immobilier réellement en 2013. Donc, okay. Par un petit immeuble de rapport dans le Lot-et-Garonne, un immeuble de 6 appartements, cité 2, 30-35 mètres carrés chacun, tout était loué, 150 000 euros, frais de notaire inclus.
D'accord.
C'était loué 1500 euros par mois, pour donner des chiffres.
OK.
Et ce qu'il faut savoir, la petite particularité, c'est que c'était dans un village de 250 habitants.
OK,
C'était
très
la,
bien.
voilà, c'était la petite particularité. Mais je suis un fonceur et je réfléchis pas trop, ce qui fait que j'ai acheté sans me poser la question de est-ce que ça se revend, est-ce que c'est louable. Je suis parti du principe que c'est loué, donc c'est louable.
D'accord,
C'est tout.
OK.
C'est-à-dire que si c'est loué, c'est que quelqu'un a réussi à le mettre en location, donc pourquoi j'y arriverais pas?
OK.
Donc ça s'est arrêté là, la réflexion. Donc ça, c'est en 2000, 2013, on achète ce premier bien. Donc dans le Lot-et-Garonne, parce que moi, je travaillais à l'époque à Bordeaux. Et je lâche, donc je travaillais à Bordeaux, je travaillais 3 ans à Bordeaux, de 2009 à 2012, fin 2012.
D'accord.
2013, j'achète ce bien, mais en même temps, je pars à Paris. Je pars vivre à Paris, là où je rencontre Émilie, ma femme actuellement, un
D'accord.
mois après, et avec laquelle on a acheté ensuite plusieurs biens. Donc à la fin de l'année 2013, on achète notre résidence principale, un petit appartement, le seul
OK.
appartement qu'on n'a jamais acheté d'ailleurs, hein, en copropriété, puisqu'on n'a jamais acheté de copro sinon.
Ah ouais,
Donc
intéressant, d'accord.
voilà, on fait pas de copro, on fait que des immeubles de rapport. Et donc on
D'accord.
achète cet appartement-là. On va revendre 3 ans après avec une moins-value, vois-tu. Donc je sais pas, on est les
OK.
seuls à pouvoir faire des moins-values à Paris, je crois. Mais ça avait été un choix de cœur, en gros. On avait fait un peu n'importe quoi. C'est-à-dire que le bien était très très beau. On vivait dans un truc tellement merdique avant qu'en fait on est tombé sous le charme du truc. On s'est fait avoir comme des bleus. Et
D'accord.
après on a voulu le vendre assez rapidement. Du coup on a perdu. On n'a pas perdu par rapport au montant acheté, mais on a perdu par rapport au montant acheté plus frais de notaire.
Oui, tout inclus, OK.
Voilà. C'est là où on a perdu. Un peu
D'accord.
d'argent, donc on a
Oui, parce
continué à
qu'en plus,
investir après. Ouais,
le
vas-y,
délai, souvent le délai court, fait que parfois c'est assez
vas-y.
difficile d'amortir les frais de notaire, notamment. Donc voilà.
C'est ça, il y avait 15 000 euros de frais de notaire,
Ouais, ouais,
et
ouais.
donc du coup, on avait vendu au bout de 3 ans, c'était pas évident d'avoir finalement cette augmentation-là. Et encore une
D'accord.
fois, on était un peu tombé sous le charme, on l'avait visité, on l'avait quasiment pas négocié. Voilà, on
Ah
fait
ouais.
des erreurs de débutant.
D'accord.
Donc ça, c'est 2013. 2014, on achète 2 immeubles dans l'est de la France, donc Champagne-Ardenne, région de la Marne, enfin
Ouais.
département de la Marne. Donc on achète ces deux immeubles-là, et ensuite, en gros, 2016, on achète 2015, pardon, on achète 2 nouveaux immeubles. À partir
OK.
de ce moment-là, on commence à lancer la société Club Immobilier parce que on commence à avoir nos premiers reçus de la banque. C'est-à-dire qu'on a acheté, en gros, on a acheté 5 immeubles en 3 ans, on a acheté un bien immobilier tous les 6 mois, et bah, à un moment donné, la banque, elle nous dit, calmez-vous un petit peu,
Ouais.
laissez passer une année, commencez à rembourser du crédit.
Ouais.
C'était des projets avec travaux, à part le premier, tous étaient des projets avec travaux, donc il fallait laisser un peu de temps passer.
Ouais, OK.
Donc finalement, on se dit, OK, qu'est-ce qu'on fait? Moi, je passais mes journées sur le bon coin, je passais mes week-ends à faire ça, et du jour au lendemain, on te dit, bah, non, tu peux plus acheter, tu peux plus rien faire.
Très
Donc là,
frustrant.
t'es très, 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 très frustré. Donc
Ouais.
c'est absolument horrible. Et du coup, en septembre 2015, on se dit, bah, tiens, ça serait bien, ça serait cool qu'on lance une sorte de club sur lequel on pourrait réunir des investisseurs. Donc
OK.
c'est pour ça qu'on appelle ça Club Immobilier à la base, et sur lequel je crois, on avait fait un site internet où tu pouvais t'inscrire, mettre ton nom, prénom, décrire combien de biens tu avais. Et
Ouais.
le but, c'était de mettre en relation, en fait, les gens. Et on a organisé nos premières rencontres. Je crois, donc on crée ça en septembre, on crée nos premières rencontres, je crois, au mois de novembre, un truc comme ça. Donc 2 mois après, on crée les premières rencontres, ce qu'on a appelé les apéros Club Imo, qui se font sur Paris. C'était gratuit à la base. Les 2 premiers épisodes étaient gratuits. Je crois qu'on était 15 la première édition, 30 la deuxième. Et on se dit, bon, finalement, on s'aperçoit que la qualité des personnes qu'on avait, quand c'était gratuit, c'était compliqué. Parce que tu avais tous les sceptiques de l'immobilier qui venaient aussi juste pour venir te dire que c'est de la merde, que c'est
Ouais.
dangereux. Donc là, c'est à ce moment-là où on dit non, on arrête ça. Et finalement, on va faire payer maintenant. On va faire payer
D'accord.
une petite somme, mais ça va faire le tri. Finalement, ça a fait le tri en effet. Et maintenant, on continue toujours à le faire. Alors, la période actuelle ne nous a pas permis de le faire cette année.
Oui, non,
Mais
mais là, effectivement, c'est particulier.
voilà, on n'a pas arrêté ce principe-là. Donc ça, c'est 2000, donc 2015. On lance Club Imo. Et on lance l'idée d'accompagner les gens. Parce qu'en fait, quand on les réunit, on parle de notre parcours, on commence à faire quelques interviews, on passe sur quelques vidéos YouTube. Et là, du coup, on se dit, waouh, en fait, c'est assez fou. On ne se rend pas trop compte à quel point ce qu'on fait, c'est exceptionnel. Enfin, ça paraît exceptionnel aux yeux des autres. Donc, on se dit, bah, tiens, comment on peut faire pour s'en servir de ce truc-là? Donc, on se dit, bah, on va monter un petit truc. C'était notre holding de l'époque qui a servi à ça. Pas du tout clean, hein. C'est-à-dire que c'était une société civile qu'on avait créée en tant que holding, qui servait à facturer ça un peu au départ pour voir un peu comment ça se passait, tâter un petit peu le marché. On lance ça donc en, donc je te dis septembre, octobre, novembre, on va dire 2015. Et là, c'est l'explosion de demande. Et
Ouais.
en 3-4 mois, on a l'équivalent, sans mentir, de 2 ans d'attente. On a 2 ans d'attente de gens qui disent, OK, bah, en gros, je me mets sur liste d'attente. Et
Ouais.
on leur dit, bah, en gros, on vous recontacte dans 2 ans pour vous aider à trouver un projet. Donc là, on se dit, c'est pas
D'accord.
possible. Donc là, on bosse jour, le nuit, la nuit, tous les. Donc nous, on était salariés, on était en CDI tous les deux.
Ouais.
Et donc, du coup, bah, on finit le boulot le soir à 18h30, on bosse jusqu'à minuit, 1h du matin. Et le samedi, le dimanche, on est en visite avec les clients. Ça dure
D'accord.
un an, mais au bout d'un an, tu craques parce que
Ah,
c'est pas possible. Tu
était
peux pas, ouais, t'es
là pour le coup, t'es cramé.
épuisé. Et en sachant qu'il y a ses propres, nos propres investissements qu'on devait gérer aussi, parce qu'on
Ouais.
avait déjà 5, on avait 5 immeubles. Donc on
Ouais.
devait quand même gérer tout ça. Et donc
Oui, t'avais
là,
pas de gestionnaire sur tes biens, tu le faisais
non, non,
toi-même.
non, aucun,
Oh
aucun.
là là, d'accord.
Ouais. Et il y en a qui étaient à 700 km. Hein,
Oui,
donc
c'est ça. J'y
voilà,
reviendrai
ça.
après sur
Ouais.
le secteur
Et donc,
géographique, etc.
exactement. Et donc, du coup, là, on se dit, bon, ça ne peut pas durer. Et quelques mois après, finalement, avoir lancé Club Immo, on commence à se dire, bon, ben, moi, je vais arrêter de bosser. Au départ, on avait dit, bon, ben, Émilie continuera à être salariée, puisque elle venait tout juste de commencer à bosser. Elle sortait de l'école, en fait. Elle a bossé 9 mois en entreprise, c'est tout. Et moi, je me dis, bon, ben, moi, j'arrête. Je fais ça à 100% et toi, tu n'arrêtes pas.
Toi,
Au final, le temps passe.
t'étais dans quoi? T'étais salarié dans
Moi,
quoi à ce moment-là?
j'étais compteur de travaux en maîtrise d'œuvre. Enfin, je
D'accord.
faisais de la maîtrise d'œuvre et du contractant en général. C'est une petite nuance.
OK.
C'est entre la promotion, si tu veux, et le contractant en général. Donc, je faisais
D'accord.
ça en région parisienne. Enfin, je gagnais 2 700 euros par mois. J'avais
Mais
une
tu étais
voiture
à ton compte?
fourgon.
Ou tu
Non, non,
avais
non.
ton...
Non, non, j'étais
D'accord.
salarié.
D'accord. OK.
Salarié en CDI.
Ah oui, donc là, ça devenait complètement intenable, en fait.
Ouais, c'était impossible. C'était impossible.
D'accord.
En plus, j'étais souvent en déplacement partout en France pour le travail. Donc, c'était vraiment compliqué de
Ok.
tenir ce truc-là. C'est l'adrénaline qui te fait tenir au départ. Hein. C'est vraiment cette adrénaline de dire que ça a l'air de marcher. Je dis ça a l'air parce qu'en fait, on s'en aperçoit pas. On va s'en apercevoir que 2 ans après qu'on ne gagne pas du tout d'argent. Avec Club Immobilier, on ne gagnait pas du tout d'argent. C'est-à-dire
D'accord.
qu'on était débordés, on travaillait comme des fous, mais en
Ouais.
réalité, il n'y avait pas d'argent qui rentrait parce qu'on facturait les gens qu'après la presta et que des fois, bah, si la personne n'avait pas son financement, on n'était pas payé. On avait des prix qui étaient trop bas, mais on ne s'en rendait pas compte. Donc bref, on passe beaucoup,
D'accord.
beaucoup de temps et finalement, on ne gagne pas d'argent. Mais comme c'était au début, pendant un an, c'était un complément de revenu, ce n'était pas gênant parce que
Ouais,
tu
c'était
vois,
pas très grave encore. Ouais.
ouais, on était salarié. Mais c'est l'année d'après, quand on a quitté tous les deux nos emplois au final, puisqu'Emilie a dit, OK, bah moi, en fait, elle avait un CDD de 9 mois. À la fin de 9 mois, ça tombait au moment où moi, je quitte mon job. Et du coup, elle dit, bon, bah vas-y, on file là-dedans. Du coup, on déménage de la région parisienne, on va s'installer à la campagne,
D'accord.
notamment juste à côté enfin, des 2 immeubles qu'on a achetés dans la Marne. Donc là, on s'installe
D'accord,
juste à côté, on se
ok.
dit, ça va faciliter la gestion. Donc on part sur ce principe-là et on achète du coup la même année notre nouvelle résidence principale et un autre immeuble dans ce secteur-là. Donc, on aura trois
Très bien.
immeubles et notre maison qui sont à côté. Donc, c'est plus facile à gérer.
Ouais,
Et
très
là, ben
bien.
voilà, pendant une année, on relance Club Immo. Et là, par contre, ouais, en termes de chiffres, ça fonctionne pas. C'est-à-dire qu'on bosse temps plein fois deux, fois trois. Et finalement, on se paye pas déjà. Et si on avait voulu se payer au bout de la première année, enfin, la deuxième année d'activité réelle, on
Ouais.
se serait payé l'équivalent du RSA chacun.
Ouais, d'accord.
Donc, pas incroyable, pas incroyable en effet.
OK. Je pense que c'est à ce moment-là, d'ailleurs, que moi, je t'avais rejoint, parce que ça me dit quelque chose. Je crois que je me souviens sur ton site, il y avait une adresse dans le 51,
Ouais,
dans les
exactement.
copyrights, etc. Je me souviens très bien. Donc c'est à ce moment-là que
Mais
moi, j'ai
ça a
assisté à ta
duré
formation.
quelques années, hein. Ça a
Ouais,
duré quelques années,
d'accord.
puisqu'on a quitté le 51 uniquement il y a 3 mois, quoi.
Ouais,
Donc c'est
et
clair.
moi je crois que c'était à peu près en 2018 que
Ouais,
j'avais
c'est
suivi
ça.
ta formation.
Ok.
Ok. Donc à ce moment-là, donc tu cherches à ce moment-là comment devenir rentable via justement Club Immobilier. Tu cherches des moyens de rentabiliser
Exactement.
ton nouveau job, on va
C'est
dire. T'es plus
ouais.
salarié. Et justement, comment tu t'y prends? Comment ça fonctionne?
Ben en fait, ce qui est assez fou, c'est que on doute pas de notre capacité, si tu veux, à donner des conseils aux gens, mais on se rend compte qu'on n'a pas trouvé le bon modèle économique.
Ouais.
Et du coup, on est même prêt à ce moment-là à retourner bosser chez McDo, enfin, aller bosser chez McDo, si tu veux,
Ouais.
pour faire un complément au cas où on ait besoin. Alors, en
D'accord.
sachant que moi, je touchais le chômage puisque j'avais fait une rupture conventionnelle pour création d'entreprise. Et Émilie, pareil, mais pour une courte durée, elle, pour 9 mois uniquement.
D'accord, ok.
Donc, du coup, si tu veux, pendant 9 mois ou voire même quasiment 2 ans avec mon chômage, on pouvait s'en sortir. C'est-à-dire, on avait d'autres,
ouais,
on avait les immeubles aussi. Donc, il n'y avait pas une énorme inquiétude et ce n'était pas complètement démesuré et complètement fou d'être parti.
Mais oui, bon, et que... tu savais en plus que tu avais beaucoup d'intérêt et de demandes de clients qui étaient super intéressés pour être accompagnés, en fait.
C'est ça. C'est-à-dire qu'à ce moment-là…
Donc, c'était juste une question de modèle économique à bien mettre en forme. Et en fait, ce qui est intéressant dans ton cas, c'est que en fait, tes investissements étaient intéressants, étaient rentables. C'était clairement pas une mauvaise décision de quitter le salariat. Et en fait, c'était plus l'entrepreneuriat qui, au départ, a posé quelques soucis et où il fallait mettre en place en fait un modèle économique qui va bien. Mais sur la partie immo pure, toi, tu avais déjà démarré en fait. Tu avais compris qu'est-ce qu'il fallait faire, comment faire pour rentabiliser, etc. C'était simplement en fait le temps de latence que te demandait ton banquier qui faisait qu'il fallait que tu trouves, que tu rôdes en fait ton modèle économique pour que ça devienne intéressant et rentable. En fait.
Ouais, c'est-à-dire qu'en fait, il fallait qu'on ait au moins un premier bilan d'entreprise. Mais le problème, c'est qu'on a un premier bilan, mais qu'il n'est pas incroyable ce premier bilan.
Oui, ce qui est très basique, hein, ceci dit.
Ouais, ce qui est très logique en fait pour une première boîte.
Ouais,
sauf que nous, on est pressé. Sauf que nous, on ne peut pas attendre 3 ans avant de réinvestir. Donc, du coup, on veut que les premiers bilans soient bons. Et ce qui est assez drôle, c'est que du coup, on va voir la banque après 1 an et demi, donc c'est-à-dire en janvier 2018. Je me rappelle, on va voir la banque pour lui dire, ben voilà, on a notre premier bilan, on a le deuxième bilan qui est en cours. En gros, est-ce que vous pouvez nous suivre? Et là, donc elle regarde le bilan, pour être totalement transparent, il était de 22 000 euros de bénéfices, en sachant qu'on ne se payait pas. Tu vois. Donc, deux, temps plein, voilà.
Ouais.
C'est vraiment très, très faible. C'est-à-dire avant de sortir, avant, voilà. Bref. Donc, nous, on présente ça et on a un peu honte parce qu'on se dit, c'est la merde, franchement, c'est nul. Quoi. Et là, en fait, le banquier, étonnamment, il dit, ah, ben, c'est positif, il y a des bénéfices, donc c'est déjà pas mal, tu vois. Nous, on est là, mais attends, mais il rigole, on ne peut pas se payer, on bosse comme des malades. Et lui, il dit, ah, ben déjà, c'est rare d'avoir un premier bilan positif, sur lequel vous avez des bénéfices. Et donc là, on se dit, ah, ok. Bon, bah, finalement, c'est peut-être pas si mauvais que ça. On était quand même en croissance sur l'année d'après, mais même si on faisait x2, ça faisait que le double du RSA, donc ce n'était pas incroyable non plus par rapport à la situation qu'on avait. Mais malgré tout, c'était en progression, c'était en croissance, on le voyait sur les chiffres, donc c'était quand même positif. Donc là, finalement, la banque, à notre plus grande surprise, accepte de nous suivre sur des opérations à partir de 2018, donc 1 an et demi en fait, après avoir lancé officiellement la boîte. Et ça correspond aussi à l'année où on s'est lancé sur la partie formation, qui a été un tremplin aussi pour nous, puisque ça a permis de toucher beaucoup plus de monde. Parce que quand on se fait accompagner, c'est des tickets entre 15 et 25 000 euros, quoi. Donc, parce que quand tu accompagnes personnellement quelqu'un, tu vas sur place avec lui, tu te déplaces. Tout le monde ne peut pas se permettre ça.
Ouais, bien sûr.
Quand on commence nos premières formations et qu'on vend notre premier produit, je crois que c'était 57 euros, la toute première formation qu'on a faite, qui durait 2 heures, évidemment, on permet à beaucoup plus de monde d'y accéder, mais c'est un moment assez dur aussi, puisqu'en fait, on n'en vend que 10 de ces formations. Donc, tu mets beaucoup d'espoir, tu écris tout, tu dis ça va être incroyable, ça va être de la folie, tu entends des gens qui, t'as l'impression qu'ils gagnent des millions avec ça. Après, tu te lances, boum, tu fais 570 euros, et après, tu as vendu à toute ton audience que tu pouvais, et tu dis, je fais quoi maintenant? Et voilà. Et donc,
tu arrives à ce moment-là,
et tu fais, merde. Ah ouais, c'est d'accord. Ça. Ça n'a pas toujours été simple, clairement.
Non, mais je vois bien, moi aussi, pour connaître un petit peu ce genre de truc, parce qu'au moment où j'avais rejoint ta formation, j'avais aussi, je m'étais renseigné sur les autres formations aussi, parce que voilà, moi, je voulais démarrer dans l'immeuble de rapport, donc clairement, moi, tu étais un peu mon modèle, et en plus, je voulais avoir une connaissance approfondie de tout ce qui est travaux, donc clairement, voilà, c'est pour ça que tu étais parfaitement adapté à ce que je cherchais, mais j'avais aussi regardé d'autres formations, etc., et ça me faisait rire un petit peu tous les mailings et tous les chronos, etc. Enfin, tout le marketing qui est autour des formations des uns des autres. Alors, toi clairement, je pense que tu étais un des, un, un des, un des moins agressifs sur le marketing. Et c'est aussi pour ça que moi, je t'avais suivi. Parce que parfois, tu vois des trucs où c'est pas possible, quoi. T'as l'impression que même Amazon, ils n'oseraient pas, en fait. C'était le chrono, le 50 rappels par
Après,
mail, etc. Et voilà. Clairement,
ce qui est
c'est.
fou, ouais, mais ce qui est fou, c'est que c'est ça qui fonctionne malheureusement, tu vois.
Ouais, c'est ça, c'est ça.
Vois,
C'est
c'est
ça
qu'en fait,
qui fonctionne.
aujourd'hui, quand t'es formateur et que tu dis, bah tiens, j'aimerais faire de manière différente, j'aimerais ne pas faire de publicité, j'aimerais pas faire ça, pas faire ça, c'est très
Non, ça tu
compliqué
peux
aujourd'hui de
pas.
sortir
Non,
une
mais bien
vidéo. C'est
entendu, évidemment.
impossible. Mais bon, je comprends. Aujourd'hui,
Non,
les
mais
énervements qu'on peut
je trouve que
avoir.
tu l'avais fait de manière assez assez modérée et c'était assez appréciable quand on était en tout cas de l'autre côté, clairement. Donc félicitations déjà pour ça. Ok, donc on fait un petit saut dans le temps. Donc là, on était sur 2018 et là, ça y est, bon, ton banquier te fait confiance. Tu commences à comprendre que tu vas pouvoir travailler un petit peu dans la durée là-dessus. Est-ce que toi, tu continues? Alors, du coup, est-ce qu'il t'ouvre à nouveau les valves pour que tu poursuives tes investissements perso?
Alors, oui et non, dans le sens où oui, il va ouvrir une partie des vannes là-dessus pour pouvoir accélérer. Et c'est aussi une année où on rencontre d'autres investisseurs et on commence à s'associer sur certains projets.
D'accord.
Parce que on va trouver des personnes, si tu veux, qui ont des situations financières plus stables que nous, plus sexy vis-à-vis de la banque, avec des plus gros revenus. Et nous, on apporte notre expertise en recherche et ces personnes-là apportent on va dire, leur financement.
D'accord,
Donc, on va faire les
ok.
deux. C'est-à-dire qu'on va à la fois faire financer des projets nous en perso, mais on va utiliser aussi finalement les financements des autres pour s'intégrer et se raccrocher dessus.
Ah, ok, intéressant.
Donc,
Sur quel type de montage, sur quel type de structure est-ce que vous avez justement.
des montages en SCI à l'IS, tout simplement,
D'accord.
sur lequel les personnes en général étaient avec leur propre holding, leur holding qui venait se raccrocher en fait sur nos SCI et nous avec nos propres holdings ou en direct. Ça dépendait des fois, ça dépendait des projets, ça dépendait de la banque aussi, à quel point elle était à l'aise sur ce type de montage. Parce que quand vous avez deux holdings qui détient une SCI à l'IS, ça peut faire peur à certaines banques qui vont pas
Ok.
forcément comprendre ce genre de montage.
D'accord. Et donc, c'était des sociétés qui avaient vocation à n'exister que sur la durée de l'opération elle-même. C'est
Alors,
ça?
c'était de l'investissement locatif, hein. Donc,
D'accord. Ok. D'accord. C'était pas de
c'était pour une
l'achat-revente.
durée.
C'était
Non, non,
de.
non.
D'accord. C'est du locatif. Ok.
Non, non, c'était bien, bel et bien du locatif, mais sur lequel on avait en fait c'était une période où je pense qu'il y avait tellement d'offres sur le marché, c'était incroyable. Enfin, moi, je me rappelle de 2018, sur lequel on trouvait mais des immeubles rentables tout le temps. Et la preuve, c'est que sur les je crois, les 3 premiers mois, donc de janvier à mars 2018, on signe quasiment, je crois, sans dire de bêtises, un compromis toutes les semaines.
D'accord, ok.
Tellement, en fait, on
Nice.
arrive à trouver des projets, c'est la folie. On fait des offres d'achat, on fait des semaines de visite avec Émilie, sur lesquelles, dans la semaine, des fois, on fait 10 offres d'achat, il y en a 4 acceptées. Enfin, on faisait vraiment, c'était vraiment de manière industrielle. On faisait vraiment de manière industrielle.
Ok, alors justement, je t'interromps là-dessus. Quels sont justement tes critères? Quel est ton seuil d'acceptabilité justement? À quel moment pour toi une affaire est rentable. Est-ce que tu as, je sais pas, un taux de rendement net, net, net en tête à partir duquel tu te dis, là, c'est bon, j'y vais. Et juste avant de te laisser la parole, on a discuté un petit peu géographie tout à l'heure. J'ai compris que tu n'investis pas forcément uniquement là où tu te trouves, même à titre perso, hein, je ne parle même pas de tes clients. Mais est-ce que donc pour toi, tu n'as pas de limite géographique et est-ce que tu as un seuil limite en termes de nombre d'habitants.
OK. Alors, par rapport à la rentabilité, il faut avoir en tête que lorsque vous êtes investisseur, votre profil de recherche, la typologie de projet que vous allez chercher, va évoluer dans le temps parce que vos besoins vont évoluer. Quand on démarre et qu'on est salarié et qu'on veut rester salarié, on n'a pas besoin d'avoir des cash flows extraordinaires. On veut peut-être un peu de sécurité, de stabilité avec un revenu complémentaire. Quand notre objectif, c'est de vivre de ça dans 3 ans ou 4 ans, bah, il va falloir être un peu plus agressif sur les projets qu'on va chercher. Donc, c'est-à-dire qu'on va accepter des fois des choses un peu plus risquées pour monter en termes de renta. Et quand on arrive dans la troisième phase, qui est la phase sur laquelle on a assez de cash flow et on fait ça simplement pour créer de la dette et donc rembourser de la dette invisible, finalement, bah là, la renta, elle est moins importante. Ce qu'on veut, en effet, c'est la stabilité et on accepte des rentas un peu plus faibles, quitte à, pour aller peut-être même sur des projets qui sont plus gros. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les projets les plus gros ne sont pas les projets les plus rentables en termes de pourcentage. C'est même l'inverse souvent. C'est-à-dire que les petits projets à 150 000 euros, 100 000 euros, sont souvent avec des rentas plus importantes qu'un projet à 500 ou 1 million d'euros. Aujourd'hui, trouver un projet à 1 million d'euros avec 10% de renta, c'est très compliqué à trouver.
Ah, absolument.
Parce qu'on s'adresse à des personnes différentes. Si je devais donner des chiffres, aujourd'hui, nous, on conseille à nos élèves de ne pas aller en dessous de 8,5 net en termes de renta. Mais encore une fois, ça dépend de la stratégie de chacun. Mais en dessous de 8,5, je leur dis de ne pas y aller. Mais à partir de 8,5-9, ça peut être vraiment une belle opération, surtout si on la maîtrise en SCI à l'IS et que du coup, la fisca est bien contenue et donc… il n'y a pas de, il y a pas une grosse différence entre le brut et le net, tu vois ce que je veux dire.
Ouais, je comprends. Ouais.
Mais c'est aujourd'hui, bien. On peut aller sur des, on peut aller sur des projets en autofinancement simple, c'est-à-dire peut-être à 7%, 7,5%, simplement parce que notre objectif, c'est de faire grossir l'endettement ou avoir des projets peut-être un peu plus quali ou des, tu vois, un peu plus de patrimonial. Mais ça, c'est vraiment la vision. Tu vois, par exemple, je devais aller visiter, je vais visiter une maison lundi, simplement juste parce que je l'ai trouvé sympa et que je me dis, je ne sais pas comment faire, mais il y a un truc à faire avec ça et je pense que le prix est intéressant. Je n'ai même pas calculé de rentage, je n'ai rien fait. J'ai juste dit, OK, ça, ça a l'air pas mal, c'est vraiment quali, je peux en faire quelque chose, peut-être des futurs bureaux de Club Immo, j'en sais rien, mais tu vois, on va aller plutôt sur, du, sur, de, sur, sur d'autres types de projets sur lesquels on ne va pas forcément chercher de la renta.
OK.
En terme ça, c'était de... la première…
Ouais. Ouais. Et en termes justement géographiques et de taille d'agglo ou de ville.
Alors, en termes de distance, notre seul… aujourd'hui, contrainte, c'est que ça soit en France métropolitaine.
D'accord.
Alors, c'est tout, donc toute la France. Oh. Mais on ne fait pas encore les Antilles, on ne fait pas tout ça.
Ouais, ouais,
parce que ça me paraît loin et complexe à gérer et on n'a pas une très bonne connaissance du secteur. Donc ça, c'est notre seule limite. Mais on n'a aucune limite. On a des biens dans le sud, dans l'est, dans l'ouest, dans le nord. Enfin, je veux dire, il n'y a vraiment aucune contrainte par rapport à ça. Et on était à un moment donné aussi où on était prêt à tout pour acheter. Donc, s'il fallait faire 7 heures de route le week-end ou 8 heures ou 10 heures de route, on le faisait parce qu'il y avait potentiellement un projet rentable. Aujourd'hui, va me faire 10 heures de route pour aller voir un projet, tu peux t'accrocher. Ouais. Mais parce que c'était pas, tu vois, il n'y avait pas la même ferveur pour acheter, il n'y avait pas la même rage. Non, c'est plus pareil.
Ok, je comprends.
Ce besoin.
Ouais. Et tu pouvais y aller pour un projet. C'est pas que tu faisais une journée de visite avec 5-6 immeubles.
Alors…
essayer un petit peu de rentabiliser quand même ton déplacement,
oui, j'imagine. Oui, ouais. Oui, je conseille toujours hein, de rentabiliser le déplacement et de visiter en général 4, 5, 6 immeubles dans la journée. Mais dans certains cas, lorsque j'avais une offre d'achat par exemple, acceptée avant la visite, je pouvais accepter de me déplacer. Alors, je ne faisais pas 7 heures de route pour ça, sans l'avoir vu. Mais en gros, je pouvais faire un peu de bagnole si je sentais vraiment qu'il y avait un super coup à faire. Et que j'avais suffisamment d'infos et que j'avais fait une offre sur laquelle on était déjà d'accord sur le prix.
Ok.
Mais voilà.
Donc, pas tellement donc pas vraiment de limite géographique aujourd'hui.
Géographique, non.
Ok.
Et après, en termes de taille de ville, qui était la troisième partie de ta question, tu vois, on a investi dans une ville de 250 habitants. Donc, on pourrait donc, imaginer
qu'il n'y a pas vraiment de limite. Je me doute un petit peu de la réponse. Ouais.
Mais aujourd'hui, je ne conseille pas à mes élèves d'aller sur ce type de projet. Je conseille d'aller, même si tout se passe bien, tu vois, mais c'est juste que je peux comprendre le risque et je n'ai pas envie de prendre ce risque-là à mes élèves, c'est de dire plutôt aller au-delà de 1500 habitants. Voilà, minimum 1500 habitants. Et si la population, elle est stable, si la population baisse, il faut augmenter quand même un peu ce chiffre, peut-être à 3 000, 4 000 habitants. Parce que 1500 habitants, si la démographie, elle est en train de se casser la figure, tu vas vite te retrouver en dessous de 1000 habitants et ça commence à être un petit peu risqué suivant le nombre de lots que tu vas avoir à l'intérieur. Mais il n'y a pas vraiment de limite. On a des biens dans des villes de 100 000 habitants et on a des biens dans des villes de 250 habitants.
D'accord. Donc, mais j'imagine que du coup, ton critère et ton seuil de tolérance sur le rendement attendu, j'imagine qu'il ne peut pas être forcément le même sur un petit village que sur une plus grande ville, quoi. Clairement.
Bah, clairement. Je ne vais pas aller chercher du 7,5 dans un village de 250 habitants.
Ouais, c'est ça. D'accord. Voilà. Donc, ton critère, toi, il a été sur un rendement, on va dire, minimum autour de 8,5, net-net. Et donc, du coup, tu as adapté, on va dire, la taille de ville en fonction. Et donc, tu acceptes d'aller sur des petites villes ou des, limite des villages, d'accord. Ok, je comprends.
Exactement. Mais alors, attention à une chose, pour pas, parce que je veux pas que ça contredise ce que j'ai pu dire avant. Là, je parle d'actuellement, c'est-à-dire des chiffres actuels. Il faut savoir qu'il y a une grosse différence entre ce qui se fait actuellement et ce qui se faisait il y a 5 ans ou il y a 7 ans quand j'ai commencé. C'est-à-dire qu'il y a 7 ans, en dessous de 10 ou 11% net, je n'y allais pas.
D'accord.
Parce que le marché le permettait. Aujourd'hui, le marché ne le permet plus pour moi de se dire je me limite à 10% net, ce n'est pas possible. Avant, tu visais du 10% net minimum, tu arrivais à trouver plein de choses dans la journée. Maintenant, c'est un peu plus compliqué parce qu'il y a un peu plus d'engouement pour les immeubles de rapport et forcément, il y a du monde qui cherche.
D'accord, très bien. Ok. Je rebondis sur autre chose puisque je voulais aussi parler un petit peu de ta stratégie en termes de type de bien. Donc, on a compris que tu vas sur de l'immeuble de rapport. Tu parlais de SCI à l'IS, ce qui signifie, je pense, que tu dois plutôt te focaliser sur de la location nue, où tu fais aussi du meublé.
Alors, la SCI à l'IS permet de faire les deux, hein, le nu et le meublé, contrairement à la SCI à l'IR. Mais alors, on va dire qu'on fait les deux, mais on ne va pas aller chercher le meublé absolument.
Ouais, j'imagine surtout sur des petits villages et voilà, j'imagine que le meublé est un petit peu plus adapté parfois aux urbains et aux gens un peu plus nomades ou projets de transport, etc.
Oui et non. Tu vois, dans notre premier investissement, premier immeuble de 6 apparts dont je t'ai parlé à 150 000 euros, c'est cité 2 à l'intérieur et sur les 6, souvent on a passé 2 en meublé. Et dans 250 habitants, c'est juste que c'est pas des étudiants en fait. Il faut pas avoir en tête que le meublé c'est des étudiants ou des gens nomades. Okay. Et là, c'est par exemple des retraités.
D'accord. Mais ce qu'il y a d'intéressant en plus dans ton montage dans la SCI et l'IS, c'est que tu peux faire un petit peu ce que tu veux à l'intérieur du même immeuble en fait. C'est que t'es pas obligé d'avoir une stratégie unique
sur l'immeuble. Tu peux évoluer en effet, avoir une partie en meublé, en non meublé. Tu peux faire la coloc si tu veux, c'est pas notre cas, mais tu pourrais faire la coloc à l'intérieur aussi.
C'est ça qui est hyper intéressant quoi. C'est que tu n'es pas obligé, pour un investisseur qui, lui, en revanche, est en LMNP, qui n'est pas en SCI et l'IS, lui, celui qui veut chercher un immeuble pour faire uniquement du meublé, je ne sais pas si ce serait forcément très, très évident de se focaliser sur une ville de 1000 habitants en se disant « je vais faire du meublé dans cette ville et je vais avoir 6 logements en meublé enfin, ». Ce n'est pas forcément
souvent évident. Ouais. Si je peux donner un conseil sur l'histoire des meublés, faites très attention à un point lorsque vous cherchez des immeubles entièrement meublés. Je vous assure que 90% des immeubles qui sont déclarés entièrement meublés ont un seul compteur électrique officiellement. C'est véridique. Oui, oui. Pour avoir analysé des milliers d'annonces, je peux vous dire que dans 95% des cas, quand vous voyez immeuble avec que des meublés à l'intérieur, vous pouvez quasiment être sûr qu'il y a un seul compteur électrique.
Donc, je suis d'accord. Ce qui est interdit, pour chercher pour mes clients, effectivement, on tombe très souvent sur ce cas-là où ça se rapproche presque plus d'une coloc, en fait, où il y a un compteur. Parfois, il n'y a même pas de sous-compteur. Et puis, il y a une répartition des charges un peu foireuse tout ce qui est complètement illégal, en fait.
Exactement.
OK, très bien. Est-ce que justement, tu peux nous expliquer un petit peu ce que tu proposes justement comme accompagnement aujourd'hui à tes élèves, à tes clients? Quelle est justement la valeur ajoutée que tu leur proposes? Est-ce que tu as affaire à des gens qui, je ne sais pas, juste n'ont pas le temps de chercher par eux-mêmes, ou bien est-ce que tu as affaire beaucoup à des gens qui n'ont pas la compétence, la connaissance, et qui ont besoin réellement d'avoir une épaule attentive à leur côté?
En fait, il faut savoir que l'activité d'accompagnement a été pendant longtemps 95% de notre activité. Aujourd'hui, c'est plutôt entre 10 et 15% de notre activité uniquement.
D'accord.
Parce qu'on a lancé des programmes, des formations qui ont évolué avec le temps et qui sont transformées de plus en plus en des programmes d'accompagnement. C'est-à-dire que nos formations aujourd'hui, comme l'école Immeuble Elite ou même l'université Club Immobilier, c'est des programmes sur lesquels tu es accompagné quasiment en fait, comme un accompagnement personnalisé, sauf que tu as la formation avec, tu as un réseau, un groupe avec qui tu peux échanger, sur lequel tu as 80, 100 personnes qui ont mis la même somme d'argent que toi sur la table pour pouvoir se former, donc un réseau de personnes ultra motivées. Donc finalement, c'est pour ça qu'on va avoir de plus en plus de gens aujourd'hui qui vont se diriger là-dessus. Sur la partie accompagnement pur, les profils qu'on a aujourd'hui, c'est des personnes qui n'ont pas le temps et qui n'ont pas forcément l'envie de se former.
D'accord.
Voilà, qui sont à l'étranger, par exemple, souvent, qui disent, ben voilà, moi, je vais investir en France, je viens, je me déplace, je viens une semaine, on visite ensemble et j'achète. En gros, c'est un
OK.
peu ça le profil qu'on
D'accord.
va avoir aujourd'hui
Ouais.
sur l'accompagnement. Sur les programmes de formation et d'accompagnement, c'est des gens qui veulent apprendre, qui ont ce désir d'être indépendants, mais ils savent que pendant un an, ils ont besoin d'être accompagnés pour atteindre cette indépendance-là. Donc, ils sont en live avec moi tous les dimanches matin pendant 2 heures. Ils ont toutes les formations qu'il faut. Sur l'école, par exemple, on va sur le terrain visiter avec eux. Donc, on fait par exemple, il y a 3 journées de visite dans l'année sur lesquelles on va se déplacer. Soit c'est Émilie, soit c'est moi, soit c'est leur coach. Bah, se déplacer sur le terrain pour visiter avec eux et regarder bah, comment on va négocier, comment on va analyser les montants de travaux qui sont à réaliser, comment on va parler et obtenir des informations de la part des locataires. Comment on va échanger avec l'agent immobilier pour essayer d'obtenir un maximum d'infos. Donc, c'est vraiment le terrain, quoi. On va sur le terrain pour voir comment ça se passe.
Très bien.
Et le fait d'avoir un réseau, moi, je m'en rends compte parce que quand j'ai commencé à investir en 2013, je t'assure que tout ça n'existait pas, qu'il n'y avait pas de réseau, personne, et il n'y avait que quelques petits forums, dont un qui existait, qui était assez gros, qui était, je ne sais plus comment il s'appelait, devenirrentier.com, un truc comme ça, je sais plus ce que c'était. Bref, un truc comme
OK.
ça. Investisseur heureux. C'était investisseur heureux.
D'accord.
Et donc, c'était ça. Mais là, par contre, moi, j'y allais, je me faisais défoncer parce que j'avais une stratégie sur les immeubles de rapport à la campagne. Ça plaisait pas à tout le monde.
Ouais.
Et donc, ça a été un peu le bordel. Mais c'était la seule zone d'échange sur laquelle tu pouvais parler d'investissement, immo, bourse, etc.
OK.
Et donc, petit à petit, ça a évolué. Et maintenant, c'est vrai que quand nous, on arrive à créer des groupes de personnes qui s'organisent des apéros entre eux parce qu'ils habitent pas très loin et tout ça grâce au fait qu'ils ont rejoint le programme, bah, en fait, c'est notre fierté de se dire on a réussi à créer des choses
Ouais.
fortes
Ouais,
entre les
absolument.
gens et ça, c'est important.
Et ouais, absolument, et fédérer une communauté, quoi. D'accord. OK.
Exact.
Quelle est ton ambition justement pour Club Imo sur les années à venir? Est-ce que tu as déjà un plan en tête? Est-ce que tu sais où est-ce que tu aimerais amener justement ta boîte?
Alors, sur Club Immobilier, le but, c'est pas que Club Immo, c'est tout l'écosystème qu'on est en train de créer autour dont tu parlais tout à l'heure. C'est-à-dire que l'objectif, c'est de pouvoir se dire, bah, aujourd'hui, on a une quantité d'élèves. Comment on fait pour les accompagner davantage? Comment on fait pour leur donner encore plus de valeur, plus de contenu, plus de choses? Donc, c'est pour ça qu'on a créé un cabinet d'expertise comptable, parce qu'on se dit, bah,
OK.
finalement, quand tu as fini d'acheter, qu'est-ce que tu fais? Tu as besoin d'un comptable. Donc, on va le créer et le faire pour les investisseurs et pour les entrepreneurs. Donc, on a créé ça. Après, on a
D'accord.
continué, du coup, la partie plan, maîtrise d'œuvre, sur lequel on dit, OK, bah, si un élève a besoin, boum, il peut dire, moi, j'ai besoin d'un maître d'œuvre. OK, nous, on fait partout en France. Donc, on vient, on se déplace, on fait ce qu'il faut. Et donc, petit à petit, c'est continuer à développer cet écosystème. Et pour être totalement transparent, ça veut dire maîtriser toute la chaîne. Donc, le plus en amont possible et le plus en aval possible. C'est vraiment les deux, en fait, qu'on veut maîtriser. Ça veut dire qu'évidemment, on va devoir à un moment donné gérer les financements, gérer les travaux, gérer peut-être aider les gens sur leurs finances personnelles. Tu vois, c'est-à-dire en amont même d'investir, qu'est-ce que tu as comme objectif? C'est de dire, bah, finalement, il faut que je fasse attention à ma manière de dépenser l'argent. Donc, peut-être que nous, on va essayer d'arriver le plus en amont possible, c'est-à-dire maîtriser toute la chaîne pour avoir un écosystème complet. Pareil, on est en train de créer des boîtes sur lesquelles on va aider les gens à placer l'argent qu'ils auront gagné. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on fait avec l'argent qu'on a placé avec l'IMO? Comment on l'utilise? Sur quoi? La crypto, la bourse, tu vois,
OK,
plein de
d'accord.
possibilités pour ça. Et donc, le but, c'est de créer un grand groupe qui permettent de réunir plein de petites structures. Donc, le but, ce n'est pas que Club Immo devienne énorme, c'est
OK.
qu'il y ait plein d'entités qui se raccrochent autour en fait, de Club Immobilier et qui en fassent un groupe intéressant et
OK.
familial, malgré tout.
D'accord, très bien. Est-ce que tu aurais justement un conseil à donner à un investisseur qui aimerait se lancer allez, l'année prochaine, en 2021, celui qui commence à chercher un petit peu, à regarder un petit peu les annonces? Est-ce que tu aurais un conseil, je sais pas, ça peut être du mindset, ça peut être, je sais pas, quelque chose sur lequel il faut être très vigilant lors d'une visite, par exemple?
Alors, ceux qui veulent se lancer en 2021, déjà, pourquoi vous voulez attendre 2021? C'est toujours pareil, c'est de dire, je veux me lancer en 2021. Pourquoi tu attends une année? C'est pas, je vais me lancer en 2021. Allez, ok, j'y vais, je fais ça maintenant, cet après-midi. Je prends un rendez-vous, je vais visiter un projet pour m'entraîner, pour m'échauffer, et on voit ce qui se passe. Je vous assure que il faut y aller petit à petit. Donc, ça veut dire que première chose, c'est trouver un projet. Même s'il n'est pas bon, vous allez le visiter. C'est et vous allez affiner à chaque fois, améliorer ce côté-là. Moi, si j'ai une qualité, c'est celle d'avoir une implémentation hyper rapide. C'est-à-dire qu'on me dit quelque chose, j'apprends quelque chose, je le mets de suite en application. Et donc, je vais faire les choses de suite. C'est-à-dire que si tu me dis quelque chose aujourd'hui sur lequel ça me fait penser que je devrais faire ça, boum, je sais que je vais le faire de suite. Soit c'est moi, soit c'est mes équipes, mais quelqu'un va le faire de suite. On est ultra, ultra réactif sur ce qu'on va faire. Et je déteste les gens qui disent « Oui, bon, bah là, ce n'est pas la bonne période, donc on verra l'année prochaine. » Ou « Ouais, mais en ce moment-là, je suis encore en période d'essai. » Arrêtez avec vos excuses. C'est n'importe quoi. Quand vous avez un salaire… Et quand vous êtes en CDI, vous n'avez pas le temps. Et quand vous êtes au chômage, vous avez du temps, mais vous n'avez plus d'argent. Donc, vous n'aurez jamais en fait, les meilleures conditions possibles. Donc, on n'a jamais du temps et l'argent en même temps.
Ça, c'est clair. Celui qui veut retarder, qui n'est pas sûr de lui et tout, il trouvera toujours une bonne excuse pour ne pas y aller. En fait.
Voilà. Et il faut comprendre, en effet, que l'investissement immobilier, c'est 80% de mindset et 20% simplement d'application. Et si vous n'êtes pas prêt dans votre tête à le faire, ben, il faut d'abord travailler sur ce problème-là. Quoi. C'est vraiment important. Hein. Les connaissances, ça s'apprend. Tout le monde est capable de l'apprendre. Mais est-ce que vous êtes prêt à vous lancer et à prendre ce risque-là? Tout le monde n'est pas prêt à le faire, clairement. Sinon, il n'y aurait que des propriétaires.
OK. Est-ce que justement, ça rejoint directement ce que tu viens de dire. Est-ce qu'il te vient en tête une erreur ou un échec qui t'a permis d'avancer ou tu referais forcément différemment aujourd'hui, qui t'a formé sur une question et où tu te dis, voilà, ça clairement, ça a été une erreur. Mais aujourd'hui, je le ferai différemment et ça m'a permis d'apprendre et de passer la seconde.
Clairement. Alors, une grosse erreur qu'on a faite, c'était de faire confiance souvent à des personnes à qui il ne fallait pas faire confiance et surtout de faire confiance sans, comment dire. En fait, il faut comprendre, c'est un peu triste, mais il faut comprendre que dans l'investissement immobilier, il faut se faire confiance qu'à soi-même. Vous pouvez faire confiance à personne d'autre. Vous ne pouvez pas faire confiance à un agent immobilier, à un notaire, à un avocat, à un comptable. À personne. Vous devez faire confiance qu'à vous-même et vous devez vérifier tout. Vous devez tout vérifier. Et c'est épuisant hein, et c'est triste d'en arriver là, mais malheureusement, avant de donner votre confiance, il va falloir du temps. Et sinon, vous allez vous faire avoir. Et nous, moi, j'ai un problème, c'est que je fais assez rapidement confiance aux gens et j'ai foi dans l'humanité et donc je considère que les gens, naturellement, sont bons. Et malheureusement, bah, des fois, ça te joue des tours parce que tu fais confiance à des personnes qui te trahissent ou en tout cas, se retourne contre toi. Et donc, nous, on a fait l'erreur, par exemple, de faire monter un artisan en compétence qui était un artisan avec qui on bossait sur nos premières opérations. On lui a fait confiance, on l'a aidé à monter, si tu veux. Il a rapidement grossi, mais l'erreur, c'est qu'il a trop rapidement grossi parce qu'on avait trop de demandes pour lui. Et en fait, il a explosé en vol, tout simplement. Et donc, ça a été le drame. Donc, faites gaffe à une chose, c'est que quand vous avez un bon artisan, n'en parlez à personne. Okay, ne le divulguez à personne, gardez-le pour vous et ne vous dites pas « Ah ben c'est génial, je vais faire profiter à tout le monde ». Parce que si vous faites ça, il se transforme d'artisan en chef d'entreprise et il n'est pas forcément prêt pour être chef d'entreprise. Et nous, c'est ce qui s'est passé. Il n'avait pas du tout les épaules pour être chef d'entreprise. Il était là pour être artisan, auto-entrepreneur et faire un petit peu de bidouille par-ci, par-là, mais pas plus que ça. Et donc, ça nous a valu énormément de problèmes et ce qui fait qu'aujourd'hui, ça nous a aidé dans la relation qu'on va avoir avec certaines personnes qui seront peut-être des relations plus dures. Parce qu'on va se dire, non, mais il n'y a pas de négociation, il n'y a pas de sentiment, il n'y a pas de tout ça, c'est du business.
OK, je comprends, très bien. Bon, écoute Guillaume, on arrive à la conclusion de cet échange. Deux petites questions. La première, est-ce que tu aurais un livre, un film ou un podcast à recommander à ceux qui nous écoutent? Alors, ça peut être quelque chose sur l'immobilier, ça peut être quelque chose plutôt au niveau mindset, justement. Ou ça peut être quelque chose totalement différent. Et puis, dernière question, est-ce que tu peux me recommander à moi un prochain invité qui fait partie justement de ton écosystème, quelqu'un qui pourrait justement parler et être enrichissant pour des gens qui aimeraient se lancer dans l'investissement?
OK, très bien. Un bouquin, je suis obligé de parler de celui d'Emily, ma femme, mon plongeon dans l'entrepreneuriat. Donc, si je devais parler de bouquin, donc d'Emily Malguir, évidemment. Mais si je devais parler, donc ça, c'est plus sur l'aspect motivation, vraiment. Okay. C'est pas pour apprendre les mots, c'est pour se motiver
à investir dans l'entrepreneuriat.
Okay. Ouais, c'est plus dans le mindset. Et après, sur la partie podcast, j'écoute qu'un seul podcast, en gros, c'est Génération Do It Yourself.
Très bien.
Celle que j'écoute.
De Mathieu Stéphanie.
Mathieu Stéphanie, exactement. J'aime beaucoup. Et il y a des voilà. En fait, comme on fait beaucoup de longs voyages en voiture, ça nous va très bien le format de 2 heures, 2 heures et demie, voire même 3 heures des fois sur certains
programmes. Des fois ça déborde.
Mais ça nous va bien. Voilà, ça nous va bien ce genre de choses. Moi, je suis pas un grand lecteur, donc j'ai pas beaucoup de livres à proposer. Je vais pas te dire tous les livres que tout le monde te dit, mais voilà. Parce que moi, je les achète, mais je les lis pas. Ils sont dans la bibliothèque pour les équipes, pour les salariés. Mais moi, je ne les lis pas personnellement. Donc voilà. Et après, la deuxième question, c'était quoi ta deuxième question?
Si tu avais quelqu'un justement à me recommander pour un échange, une interview, quelqu'un que tu penses être assez enrichissant et assez formateur pour les gens. Voilà.
Ok. Moi, je pense en fait à Gabriel et Nitam. C'est un couple qui était des élèves de notre promo IMO de cette année et qui sont en train de quitter leur boîte tous les deux. Enfin, Nitam l'a déjà fait, Gabriel est en train de le faire, et qui ont pour objectif, en gros, qui sont calés. En fait, ils ont commencé à bosser et ils sont laissés deux ans pour quitter leur job et partir faire le tour du monde. Ils ont acheté plusieurs immeubles et là, ils sont en train de créer une boîte qu'ils vont pouvoir gérer totalement à distance.
Ah, donc, super. Donc,
c'est extrêmement intéressant. Et donc, c'est des amis très proches et passionnant.
Ok, super. Je les contacterai de ta part et ça fera l'objet d'un échange prochain. Super, Guillaume. Écoute, merci beaucoup pour cet échange.
Avec plaisir, encore une fois.
Hyper intéressant. Et je donnerai les liens en commentaire pour te retrouver sur tes réseaux. Écoute, à très bientôt.
Avec grand plaisir.
Et merci beaucoup.
Merci.
Bonne journée.
Salut, ciao.
Voilà, j'espère que cet échange vous a intéressé. Sans doute, si vous êtes encore là. Je vous invite donc à commenter, noter avec un 5 sur 5, partager à vos amis ou vous abonner à ce podcast pour ne manquer aucun épisode. Vous pouvez aussi nous retrouver sur notre site easyinvest.fr, nos réseaux sociaux ou réserver un créneau pour discuter de votre projet. Vous trouverez le lien sur notre site ou nos pages Facebook ou Instagram. Restez toujours positif et n'oubliez pas, ceux qui pensent que c'est impossible sont priés de ne pas déranger ceux qui essayent. Ciao !